Europe 1.
Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. C'est parti, avec autour de vous ce soir, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Mickaël Darmon. Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Comment allez-vous?
Très
enfin,
bien.
Bon, alors très bien. On y va et on regarde près ce qui se passe actuellement au conseil d'administration du géant de l'énergie, Engie, qui là se tient actuellement pour décider du sort de son emblématique directrice générale, Isabelle Kocher. Elle est jusqu'à aujourd'hui la seule femme dirigeante du CAC 40 et c'est plus qu'un symbole. Hein. Ça fait aussi beaucoup réagir. D'ailleurs, c'est certainement une femme qui va la remplacer parce que, tant qu'à faire, c'est un vrai sujet pour l'Élysée. Catherine Ney, en tant que femme aussi, comment vous voyez là toute cette ce déballage qu'on a découvert il y a quelques jours à peine, avec aussi toutes les difficultés qu'a connues Isabelle Kocher, hein, qui a été poussée vers la sortie?
Oui, mais enfin, il faut remonter. Isabelle Kocher a quand même été choisie par Mestrallet, le patron,
l'historique PDG.
Le PDG, qui aurait dû normalement nommer son numéro 2 pour lui succéder, Jean-François Cirelli, qui était son numéro 2 depuis la fusion GDF-Suez, et qui a choisi Madame Mestrallet, Madame Kocher, parce que, comme il disait, c'est une personnalité solaire, et il était subjugué par la fois cet ingénieur des mines qui avait 5 enfants, qui était superbe, qui avait de l'entregent, voilà, et qui l'a choisi. Et ce qui est intéressant, c'est comment, quelques années, cette femme qu'il a fait entrer il y a 4 ans, avec la promesse de lui succéder et de passer de directrice générale à présidente quand il aurait pris sa retraite en 2018, eh bien, comment est-il devenu son ennemi? Alors, il faut le savoir, c'est peut-être aussi que Madame Kocher a peut-être commis des erreurs psychologiques. Vous voyez, et ce qu'on lui reproche, c'est moins sa gestion que sa façon de gouverner de manière hautaine, assez froide, sans nouer des vraies relations humaines dans l'entreprise, mais surtout, à peine avait-elle accédé à son poste, qu'elle privait Gérard Mestrallet de son poste en 2018, quand il a pris sa retraite, alors qu'il est toujours celui qui tire les ficelles dans l'entreprise, et qu'elle a éliminé tous ses proches. Donc, elle a eu une gestion qui...
Alors que l'État, à ce moment-là, veut une direction bicéphale. Hein. Il se manifeste
en ce
sens.
Pense que si elle s'était mieux comportée avec Gérard Mestrallet, il aurait sûrement serait vraiment battu pour qu'elle ait les deux postes. Or, je crois qu'elle a manqué, c'est une femme, mais ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne fait pas d'erreur. Et je pense que c'est une femme intelligente, mais qui ne savait pas, peut-être, qui n'avait peut-être pas le caractère pour bien diriger. Voilà, c'est tout.
Mickaël Darmon, oui.
Enfin, oui, pardon, mais le paradoxe serait, en écoutant Catherine, c'est de comprendre qu'au fond, c'est au nom du respect de la parité qu'elle serait dégommée. Puisqu'au fond, on traite les femmes comme les autres, quel que soit, donc, c'est plutôt le mode de gestion et les résultats qui sont déterminants et non pas le fait d'être
une femme. Il ne faut pas qu'elle soit reconduite parce qu'elle est une femme, il faudrait qu'elle le soit parce qu'elle est capable d'eux.
Mais quand même, il y a quand même un aspect un peu exceptionnel depuis le départ, parce qu'on a bien vu qu'effectivement, elle avait une gestion peut-être un petit peu aussi affective. Si on se mettait à désinguer tous les PDG qui sont et arrogants, et hautains, et qui éloignent leur entourage, il n'y aurait plus personne dans les grandes boîtes. Donc ça, c'est déjà la première chose. Mais surtout, au fond, je crois que ça n'a pas marché dès le début avec Emmanuel Macron. Parce que c'est quand même là que ça se passe. Comme d'habitude, dans la Ve République.
Elle a quand même tenté ça se passe là. Deux elle opérations.
Elle a peut-être tenté. Mais
qui sont deux opérations qui lui ont porté un coup final.
Peut-être.
Première opération, elle est allée voir Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, pour lui vendre le patrimoine, en quelque sorte, des centrales nucléaires belges, sans avertir l'État français, sans avertir l'État belge. Mmh. Et quand l'État belge a découvert la démarche, il s'est étranglé. La deuxième opération qui lui a enlevé quasiment la confiance des 13 administrateurs, quand vous discutez avec deux des administrateurs justement de ce conseil d'administration, qui lui était pourtant assez favorable, c'est le coup politique tenté avec l'opinion, c'est-à-dire la tribune signée par Anne Hidalgo, la maire de Paris, le leader écologiste Yannick Jadot et Xavier Bertrand.
Et Cédric Villani pour faire bon point.
Et Cédric Villani en plus, qui lui a fait étrangler, ça a été le coup final comme le disait à l'instant, Mickaël Darmon, c'est qu'elle n'a jamais été vraiment dans les papiers de l'inspecteur des finances devenu président de la République. Elle n'est pas inspectrice des finances, mais elle a un palmarès universitaire formidable. Elle est normalienne, elle est agrégée de physique. Elle est ingénieure des mines. Ouais, elle a fait le parcours de tous ces hauts fonctionnaires français qui sont devenus patrons. Oui. Donc c'est vrai que c'est pas pour ça et là-dessus.
Mais malgré ça, elle s'est fait inviter à déjeuner par Madame Macron il y a deux jours.
Exactement. Oui, en général, c'est ce qu'on fait pour le dernier hommage.
Voilà.
Alors,
c'est ça.
Pourquoi est-elle sanctionnée? On y est venu. Qui va lui succéder? On va s'en parler, mais dans un petit instant, si vous le voulez bien. Vous avez certainement des informations, les grandes voix. Alors on se retrouve dans une seconde.
Il est 18h39 sur Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et le débat des grandes voix comme tous les jours jusqu'à 19h avec autour de vous ce soir Nathalie, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Mickaël Darmon et toutes vos réactions bien sûr sur Twitter, hashtag Europe 1 ou au 3921.
Nos auditeurs, Alain depuis les Yvelines nous appelle ce soir. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Bienvenue.
Nathalie, bonsoir les grandes voix.
Bonsoir. Bienvenue au micro d'Europe 1. Vous avez travaillé à L'Oréal hein, entre autres et vous avez un regard sur le fait que voilà, une femme à ce poste.
Ben non, pas du tout, parce que justement L'Oréal est une entreprise tout à fait exemplaire en matière de parité, avec une majorité de femmes dans les effectifs et une parité dans les organes de direction et jusqu'au conseil d'administration. Je pense que sur le fond, il y a tout à fait autant de femmes compétentes en France et ailleurs d'ailleurs que d'hommes. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que dans aucune entreprise, le directeur général peut se permettre de ne pas être aligné sur son conseil d'administration dont il tient sa légitimité. Et tout est là, homme ou femme, le problème il est là.
Oui.
Et justement, je pense que c'est une erreur de Mme Cochère que d'avoir ces derniers jours porté le débat sur le terrain de la parité, parce qu'elle se trompe complètement. Elle a été nommée par un conseil, elle n'est plus soutenue par le dit conseil, alors en plus avec une gouvernance particulière, puisque Engie c'est quand même une ancienne holding financière suède, qui a fusionné avec une régie d'État GDF, donc c'est particulier. L'État a un tiers des droits de vote, donc politique est omniprésente. Mais je pense que ça n'a strictement rien à voir. Mais vous ne pouvez pas diriger une entreprise si vous n'êtes pas soutenu par votre conseil.
Voilà.
C'est partout.
Voilà. Il a raison, Alain. Merci beaucoup, Alain, de votre appel. Effectivement, c'est un peu le ton là ce soir dans le studio des grandes voix. C'est ça. C'est qu'il y a eu des erreurs.
On peut pas jouer l'opinion contre son bord. Voilà, oui, c'est sûr. Et vous savez qu'elle s'est battue. Elle s'est battue jusqu'au bout parce que hier, elle s'est invitée au journal de France 2. Et on lui a dit que
l'a refusé. Oui. Alors c'est vrai que on écoutait Alain, effectivement, il est sagace de ce point de vue-là. Mais enfin, on n'est quand même pas chez les bisounours depuis le début. À partir du moment où
très pertinent.
C'est exactement ce que je viens de dire. Il était sagace.
Oui.
Donc à partir du moment où Monsieur Clamadieu est arrivé au-dessus d'elle. Il était évident que déjà c'était une offensive et que on va dire les fusils étaient pointés vers Isabelle Cochère. Et de là, à partir de ce moment-là, ça n'a pas arrêté d'augmenter. Effectivement,
est-ce qu'elle est sanctionnée pour être trop écolo quand même, Isabelle Cochère, parce que
ce serait étonnant. Elle a fait tout le programme de la transition écologique que demande le président et toutes les feuilles de route de transfert au bas carbone.
Non, mais Nathalie, on est dans une période extrêmement compliquée, notamment en pleine transition justement énergétique. On ne sait pas combien va coûter l'énergie d'ici 5 ans. Donc on ne peut pas s'amuser, comme l'a dit d'ailleurs notre interlocuteur tout à l'heure, notre auditeur, on ne peut pas, oui, sagace.
Voilà. Vous êtes bien là,
oui, les deux. Il est excité.
Bon duo, là, allez, les duettistes, allez-y.
Et donc, à partir de là, on ne peut pas aller, comme l'a dit Catherine, très bien, on ne peut pas aller contre son conseil d'administration.
Alors, surtout que pour financer cette énergie verte, il faut de l'argent. Or, en 2019, ce sont les activités de gaz et d'électricité, le nucléaire belge, qui ont tiré la croissance des bénéfices, alors qu'elle voulait vendre le nucléaire belge. Vous voyez ? Donc, si vous voulez être vert, il faut aussi pouvoir le financer.
Bien sûr.
Voilà, parce que ça coûte très cher et on ne sait pas combien ça coûte. C'est un peu comme le régime des retraites.
Alors,
c'est formidable, mais on ne sait pas combien ça coûte.
Juste un mot de l'avenir quand même, parce que c'est tranché là en ce moment. Il le disait à Alain, notre auditeur pertinent. Il n'y a jamais eu autant de femmes à des hauts postes de grosses boîtes que de nos jours. Il ne s'agissait pas d'aller sur ce secteur-là, enfin en tout cas sur ce levier-là de la part de Cochère, et c'est pourtant ce qu'elle a fait. Mais à Bercy, qu'est-ce qu'on veut ? On veut une femme, soyons clairs.
En même temps,
il y a une charte qui a été constituée.
Charles Villeneuve.
Mais pour l'instant, il semble qu'il se dirige pour l'instant provisoirement vers un triumvirat intérimaire en quelque sorte, de trois personnes, un homme et deux femmes.
Mais au final, il serait de bon ton que soit pérennisée une femme.
C'est ce qui se fera.
En tout
c'est
cas,
ce
cette fera. Affaire, puisqu'on est Quel aussi en pleine transition politique et non pas uniquement énergétique du quinquennat, intervient bien mal parce qu'elle vient aussi, une fois de plus, sertir la difficulté qu'a aujourd'hui cet exécutif à être en phase avec les promesses de départ. La féminisation, parce que c'est quand même pas nous qui l'avons sans arrêt.
C'est pour ça qu'on est au-delà du symbole.
Ils ont déroulé la banderole en permanence. Nous changeons en permanence le mode de vie politique. Nous faisons rentrer les femmes. Résultat des courses, la seule femme qui était à la tête du CAC 40 en France en 2020, elle est désinguée pour toutes les raisons que l'on a évoquées, elle est sortie. Mais je pense que le niveau de parité en France n'est pas encore assez fort pour pouvoir dire, eh bien, au nom des résultats, on la dégomme, parce qu'au fond, c'est comme tout le monde. C'est encore trop frais pour ça.
Non, mais elle a un bilan honorable, mais pas flamboyant non plus.
Avec cette crise de gouvernance, on l'a dit, et une stratégie claire à ce mastodonte de l'énergie qu'il faut redonner absolument désormais. Merci les grandes voix, on se retrouve dans un instant.
Europe 1, il est 18h45. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Mickaël Darmon.
On en a parlé évidemment cette semaine et on n'a pas fini d'en parler, ces scandales sexuels dans le sport et dans différents milieux. Alors après la multiplication de ces cas dans le monde du sport, le gouvernement a préconisé de soumettre systématiquement les éducateurs, animateurs et bénévoles des clubs et associations à des contrôles d'honorabilité. C'est déjà le cas dans l'éducation nationale.
Où ça marche bien.
Et ben voilà, c'est ça. Oui. Donc, ben voilà, pour une fois, ça fait des petits.
Oui, oui.
Et là, c'est bienvenu. Mais est-ce que ça va suffire ? La question,
c'est
que... Non,
mais de toute façon, vous ne pouvez pas... Le ministère des Sports ne peut pas l'imposer à n'importe quelle fédération. Il faut que la fédération elle-même, de toute façon, prenne cette initiative. Et d'ailleurs, dernièrement, on a pu constater dans une association sportive composée de bénévoles qui avait un pédophile condamné par deux fois et qui continuait d'exercer, qui était revenu pour s'occuper notamment des enfants.
Donc, ça veut dire quoi ?
On ne l'avait même pas consulté, justement, le fameux fichier, le FIGES.
Exactement.
C'est-à-dire le fichier je ne m'en souviens plus très bien, mais je vais vous le dire, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
Le FIGES, voilà. Pour l'acronyme. Mickaël Darmon, on est sur, de toute façon, une situation assez inextricable. Quoi qu'il sera mis en place, on aura de toute façon toujours des trous dans la raquette.
Vous avez vu qu'il n'y a pas un secteur de la société maintenant qui n'est pas en train de dévoiler ce qui se passe dans la réalité de ses coulisses. Ce qui veut dire qu'on est face à une incapacité de la société d'avoir protégé les enfants, quel que soit le secteur. Et quelle que soit aujourd'hui l'initiative, il faut absolument faire tout pour que cette capacité à protéger les enfants soit acceptée. Et alors là, on a effectivement peut-être quelques dispositifs, mais on a aussi des incohérences absolument ubuesques. Il y a quelques jours... la personne qui a eu donc le trophée des auditeurs à Europe 1, le trophée Lagardère, c'était monsieur donc Laurent Boyer avec la boîte des papillons.
Absolument.
pour que les enfants puissent libérer la parole. Figurez-vous
devant les
qu'il a été dénoncé par les inspecteurs d'académie ces derniers jours avec les boîtes aux lettres qu'il a mis notamment dans le 44 pour que les enfants puissent libérer la parole parce qu'ils n'ont pas l'agrément.
Ah oui,
voilà,
d'accord.
Parce que la bureaucratie française...
Donc la lourdeur administrative fait que là, on ne valide pas une extraordinaire idée.
Exactement.
On marche sur la tête.
Et on se heurte encore à un mur. Donc, tant qu'on aura ce genre de mur stupide, ridicule et bureaucrate, face aux initiatives, alors que tous les directeurs d'établissement demandent ces boîtes aux lettres, par exemple,
bien,
il y aura encore, dans tous les secteurs, des gens qui pourront faire ce qu'ils voudront.
Ces boîtes aux lettres, effectivement, on le rappelle, un papillon où l'enfant peut mettre effectivement son petit papier, sa déclaration, et ça peut être une institutrice, un éducateur, un directeur d'école qui récupère le témoignage
et alerter. Et bien voilà que les inspecteurs d'académie, parce qu'il n'y a pas l'agrément, disent il faut dénoncer cette association.
C'est très grave, Catherine Ney, Charles Villeneuve, d'en arriver là. Ce n'est pas des trous dans la raquette, c'est au-delà de ça.
Mais oui, alors que le fameux fichier,
le FIGES,
le nom de 84 000 personnes, vous voyez, donc. Là, que le gouvernement veuille que toutes les associations puissent le consulter, mais elles peuvent le consulter, en fait, mais elles ne le font pas, parce que peut-être qu'elles n'en ont pas l'idée, parce que c'est quelque chose qui dépasse, quand vous faites confiance à quelqu'un qui arrive, qui est gentil avec les enfants, qui est aimé des enfants, souvent, vous n'imaginez pas, quand on est dans un village où c'est un type sympathique,
bien sûr.
Je veux dire, pourquoi le suspecter si on ne sait rien, voyez.
Et c'est... comment on va-t-on mettre, on ne va pas mettre un policier derrière, non, dans chaque fédération, pour
si
aller vérifier,
mais
Charles Villeneuve.
Il y a des fédérations où Association, la tentation est beaucoup plus grande, de toute façon, et c'est à elles-mêmes de créer, si vous voulez, des cellules de collectif. C'est vrai pour la fédération de tennis, c'est vrai pour la natation, la gymnastique, l'athlétisme, l'équitation, qui peuvent susciter plus de risques, de toute façon, parce qu'il y a une emprise psychologique entre le coach, qui est seul, avec, si vous voulez, l'enfant, le mineur, en tout cas. Et donc, c'est à partir... Et c'est justement dans ce milieu-là que les dérapages sont les plus nombreux, ou en tout cas, ont rarement été signalés. Ce qui se fait, ce qui s'est fait là dernièrement, peut se faire, puisque la parole est de plus en plus libre maintenant, dans les secteurs que je cite.
Laetitia nous appelle de la région parisienne. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir.
Vous êtes juriste, hein, spécialisée dans la protection
oui,
de l'enfance, dites-nous.
Oui, alors écoutez, c'est un sujet que je traite quotidiennement dans mon travail. C'est vrai que dans le milieu du sport, c'est un peu particulier parce que justement, il y a le fait de l'isolement de l'enfant avec le coach la plupart du temps. C'est pas, alors aujourd'hui, ça se révèle, mais en fait, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est depuis très longtemps que ça existe. Après, mettre tout le temps quelqu'un derrière le coach, ça va être très compliqué. Oui. Mais moi, je tiens quand même à mettre un point d'honneur sur la surveillance des parents. Parce que malheureusement, la plupart du temps, comme vous avez dit, on a une totale confiance au coach. Et les parents, ils ont cette facilité
de laisser leurs enfants
et
d'avoir confiance.
Exactement. Et je pense
qu'il y en a besoin d'avoir confiance.
Mais oui, mais la réalité, c'est qu'on vit pas dans un monde de bisounours et qu'on a vu tellement de procès. Et comme on a vu ces derniers jours, on l'a bien. Tout le monde était au courant.
Bien sûr. Mais alors, Laetitia et les grandes voix, je me pose une question. Les parents, bien, mais quand les coachs et les enfants partent pour 3 semaines ou 4 semaines d'entraînement à l'étranger, comment on fait là, à ce moment-là?
Mais c'est la raison pour laquelle la cellule... Alors, c'est vrai que la plupart de ces fédérations dont on parlait à l'instant n'ont pas les moyens. Ce sont des fédérations relativement pauvres,
avec
notamment dans les sports de glace.
Avec des bénévoles qui encadrent.
Ce n'est pas la fédération de football, ce n'est pas la fédération de rugby, des sports de toute façon qui ont des revenus beaucoup plus importants. Mais où la cellule est collective, plus facilement, parce qu'évidemment ce ne sont pas des sportifs isolés, ce ne sont pas des mineurs isolés, mais il n'empêche que cet effort doit être fait, et c'est à partir de là que le ministère des Sports, dont la dotation est assez maigre, à peine 1 milliard, 500 millions de toute façon pour les salaires des employés du ministère des Sports, et 500 millions de toute façon sont totalement insuffisants. C'est donc les régions qui doivent faire l'effort aussi.
Michael Darmon.
Ce à quoi on assiste, c'est à la révolte de la société contre le système.
Oui.
Toute société fermée, toute organisation opaque aujourd'hui est percuté via l'outil numérique, via la capacité qu'a aujourd'hui la société de dire on vous affronte, on n'a plus peur de vous, alors peut-être avec parfois des conséquences qui seront compliquées sur le plan politique, mais peut-être que le bon côté de l'affaire, eh bien, c'est qu'effectivement on secoue des situations qui étaient en toute impunité. Lorsqu'on voit je ne connais pas du tout ce monsieur, ce président de la Fédération des sports de glace, mais j'ai l'impression d'avoir remonté la machine à remonter le temps. C'est incroyable, cette espèce de potentat qui est là. Donc tout
il
le monde avait
été averti
bien.
En 2000 par les lettres de parents.
Tout le monde sait très bien qu'il est au courant de tout. Et le système l'a maintenu en place parce que les présidents de club, chaque année,
exactement, parce qu'il est élu par les présidents de club.
La société aujourd'hui dit ça c'est terminé, avec parfois des dérives, parfois des outrances, mais peut-être faut-il ce moment-là pour rétablir un équilibre.
Tu ne peux pas le faire.
Dit stop, mais avec des garde-fous qui sont quand même assez limités. Non, on le constate encore terme, aujourd'hui.
Mais non, mais c'est la loi, non, c'est pas ça bougera.
On vous laisse discuter les grandes voix.
Les mentalités changent lentement, mais elles changent avec des traumatismes.
Merci les grandes voix. Mais il y a de la place au salon, on vous installe confortablement et vous continuez. Merci beaucoup, merci à vous.
Europe 1. La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec le journal complet de Sébastien Krebs, c'est dans moins de 3 minutes. Et on se retrouve évidemment avec le programme.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h tous les jours sur Europe 1.